VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Ravi de vous retrouver en ce dernier jour du mois de mars. Et oui, nous sommes le 31 et il est 13h en temps universel. Le Nigeria, pour ouvrir bien évidemment après les élections législatives et présidentielles, eh bien le candidat de l'opposition, Muhammadu Buhari, a devancé le chef de l'État sortant, Goodluck Jonathan, à Lagos, la capitale économique nigériane et ville la plus peuplée du pays. Indication fournie ce mardi par la commission électorale indépendante, le compte-rendu de Jean-Roger Bion.
Monsieur Buhari du Congrès progressiste APC a remporté 792 460 voix contre 632 327 pour Monsieur Jonathan, candidat du Parti démocratique populaire, le PDP. Un résultat inverse de la précédente présidentielle en 2011 où Monsieur Jonathan l'avait emporté face à Monsieur Buhari. Lagos, qui compte environ 20 millions d'habitants, est considéré comme un état clé dans ce scrutin, mais les électeurs se sont peu mobilisés. Seulement 1,7 million des 6 millions d'électeurs enregistrés ont voté pour la présidentielle et les législatives. En revanche, le président sortant du Nigeria, Goodluck Jonathan, a réalisé un carton plein dans son fief de l'État de Bayelsa, dans le sud du pays, remportant plus de 98% des suffrages à l'élection présidentielle. À l'échelon national, c'est cependant l'ex-général Buhari qui mène d'après le décompte partiel des résultats.
Nigeria, toujours plusieurs organisations déployées des observateurs dans le pays pendant ces élections. Parmi les délégations présentes sur le terrain, celle du National Democratic Institute, le NDI, basé à Washington. Timothée de Nangmaï a joint à Abuja le directeur pour l'Afrique du NDI, Chris Fomunyu.
Certes, il y a eu quelques ratés, comme le retard dans l'arrivée des agents électoraux, le retard dans l'arrivée du matériel électoral, mais nous avons aussi constaté des améliorations par rapport au scrutin passé. Par exemple, les électeurs étaient très disciplinés, très calmes, très posés en attendant le démarrage du scrutin. Et dans la plupart des États, le jour du scrutin s'est déroulé sans violence, ce qui est quand même un fait remarquable dans un pays qui, par le passé, a connu des violences autour de ces élections.
J'ajoute que des combattants de Boko Haram ont mené une incursion hier dans le sud-est du Niger, mais ont été repoussés par les armées tchadiennes et nigériennes vers le nord-est du Nigeria frontalier, d'après l'AFP. D'après un élu du sud-est nigérien, de nombreux éléments de Boko Haram ont été tués, ce que n'a pas confirmé une source militaire tchadienne. Le matériel des assaillants a été détruit dans l'accrochage qui s'est tenu hier dans la zone de Bosso, bourgade nigérienne, située à proximité de la frontière entre le Niger et le Nigeria. Toujours selon l'élu nigérien, au moins 4 véhicules utilisés par les islamistes, dont un blindé, ont été anéantis. Les rebelles auraient fui jusqu'à Malam Fatori, une ville nigériane proche de Bosso, mais l'armée nigériane affirme à l'inverse que Malam Fatori est sous son contrôle. La radio privée Anfani, basée à Difa, la grande ville du sud-est du Niger, elle a fait état hier d'intenses bombardements aériens dans le lit du lac Tchad, où se trouve notamment Bosso et Malam Fatori. En Guinée, maintenant, l'opposition appelle à une journée ville morte ce jeudi. Les opposants contestent toujours le calendrier électoral qui prévoit de tenir la présidentielle le 11 octobre prochain avant les élections locales en 2016. L'opposition guinéenne, qui boycotte également l'Assemblée nationale et ne reconnaît plus la commission électorale, posant aussi des conditions préalables pour reprendre le dialogue avec l'administration du président Alpha Condé. Nicolas Pineau a joint Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition guinéenne.
La journée ville morte que l'opposition guinéenne projette s'inscrit dans un cycle de manifestations que nous avons décidé d'initier suite au refus du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante d'organiser enfin les élections communales dont les mandats ont expiré depuis plus de 5 ans. Et nous sommes donc dans cette crise politique qui n'en finit pas de perdurer parce que le gouvernement n'est pas ouvert au dialogue, parce que la CENI et le gouvernement violent systématiquement la Constitution et les lois de la République, l'objectif étant d'organiser une véritable mascarade électorale le 11 octobre prochain pour plébisciter en quelque sorte le président sortant. Ce que nous refusons catégoriquement, nous inscrivons dans la logique d'élections transparentes et crédibles.
Pourquoi finalement ne pas boycotter ces élections présidentielles, puisque le calendrier ne sera pas changé par la CENI?
Nous pensons qu'il est possible de changer le calendrier parce qu'il est établi par certains commissaires qui sont au sein de la Commission électorale nationale indépendante, qu'il est parfaitement possible, dans l'intervalle du temps qui nous sépare de l'élection présidentielle, c'est-à-dire dans l'intervalle de 7 mois, qu'il est parfaitement possible entre-temps d'organiser les communales avant l'échéance du 11 octobre. Donc nous nous engageons dans ces manifestations. action pour obliger le gouvernement et la CENI à tenir compte de notre constitution, qui prévoit des mandats bien définis et qui doivent être renouvelés chaque fois qu'ils arrivent à expiration.
Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition guinéenne.
C'est une action que nous saluons énormément parce qu'elle vient s'ajouter à toutes les autres actions que nous avons menées depuis que ces activistes pour démocratie ont été arrêtés et sont détenus au secret par des services de renseignement ANR, sans possibilité de recevoir la visite familiale ni l'assistance de leurs avocats, ce que nous considérons comme une violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et puis nous fustigeons le fait que ce service est publiquement encouragé par le gouvernement à travers son porte-parole et qui ne cesse de tenter à démontrer que c'est une détention régulière.
Les gouvernements les accusent de préparer une insurrection contre les pouvoirs en place. Est-ce que vous pensez que c'est fondé, ces accusations du gouvernement?
Non, c'est fantaisiste, sans aucun fondement. Vous savez, c'est du n'importe quoi. Et c'est regrettable que le gouvernement congolais ait choisi d'utiliser une pareille stratégie qui est de nature à diminuer davantage sa crédibilité aux yeux de l'opinion nationale comme internationale. Parce que si réellement les faits tels qu'articulés par lui étaient fondés, pourquoi n'avait-il pas pensé remettre ces jeunes gens à la justice?
Vous l'avez compris, tout juste avant, c'était la voix de Maître Georges Kapiamba qui était joint à Kinshasa par Eddy Issango. Donc c'était en République démocratique du Congo. Il était question des défenseurs des droits de l'homme qui soutiennent la campagne menée par Amnesty International pour la libération d'une trentaine de jeunes Congolais militants pro-démocratie détenus depuis le 15 mars. Et donc on avait les précisions du président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Dans le cahier international, en Irak, les forces de sécurité ont repris le siège du conseil provincial à Tikrit, près d'un mois après le lancement de leur offensive sur cette ville du nord tenue par le groupe État islamique. Il s'agit, d'après l'AFP, de la percée la plus significative depuis le lancement le 2 mars de l'offensive, la plus importante opération contre les djihadistes depuis qu'ils se sont emparés en juin dernier de vastes pans du territoire, notamment dans le nord de l'Irak. La capitale yéménite Sanaa a subi ce mardi avant l'aube les raids aériens les plus violents depuis le début des bombardements de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite, qui a encore dénoncé le soutien de l'Iran aux rebelles chiites houthis. Ces raids d'une extrême violence se sont concentrés sur des positions de la garde républicaine, corps d'armée resté fidèle à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, aujourd'hui allié aux houthis. Et justement, nouvel avertissement du président turc Recep Tayyip Erdogan à Téhéran. La Turquie ne tolère pas une domination du Moyen-Orient par l'Iran, affirmation qui signale un net rapprochement entre Ankara et l'Arabie Saoudite, comme nous dit Michel Joseph.
Hier, le chef de l'État turc a sommé ceux qui s'ingèrent dans les affaires internes du Yémen de s'en retirer. Jeudi dernier déjà, Recep Tayyip Erdogan avait accusé l'Iran d'avoir déployé des troupes au Yémen, avertissant qu'Ankara ne tolérera pas une domination du Moyen-Orient par l'Iran. De l'avis des observateurs, la fermeté du nouveau roi saoudien Abdallah dans son soutien aux rebelles syriens et ses efforts pour contrer l'influence régionale de l'Iran ne sont pas étrangères à ce rapprochement entre Riyad et Ankara. Du reste, le parti AK d'Erdogan étant d'obédience islamiste sunnite, pas étonnant qu'Ankara voit de plus en plus la région à travers le prisme de la division chiite-sunnite, soulignent les experts.
Pour revenir à la Turquie, des hommes armés ont pris en otage dans un tribunal d'Istanbul le procureur en charge d'une enquête ouverte après la mort d'un jeune homme blessé par la police lors des manifestations anti-gouvernementales de 2013. L'AFP signale que des coups de feu ont été entendus lors de la prise d'otage. Certains médias l'ont attribué à un groupe d'extrême gauche turc. Et puis l'ONU a exhorté ce mardi la communauté internationale à accroître fortement son aide humanitaire aux Syriens, car après 4 ans de guerre, 4 sur 5 d'entre eux vivent dans la pauvreté et la misère. Les mots même de son secrétaire général Ban Ki-moon. C'est la crise humanitaire la plus grave de notre histoire, a-t-il encore appelé en ouvrant la troisième conférence des donateurs sur la Syrie à Koweït. L'ONU a fixé à 8,4 milliards de dollars en un an l'aide financière nécessaire. Et voilà pour ce tour de
soyez au cœur de l'info.